au niveau de l'utilisation du vidéo, il n'y avait pas eu d'expérimentation technique autant que toi tu l'avais présumé.
C'est pas en termes techniques.
Ben, au niveau, disons, expérimentation là, du médium.
C'est-à-dire l'expérimentation de ce que permet ce nouveau médium-là, ouais. Dans le sens que il est instantané, il est électronique, donc ouais. Instantané. Il est économique, donc entre les mains des usagers là, ou des concepteurs, entre les mains de deux nouveaux types de concepteurs. Il est miniaturisé, très, très portable, etc. Donc, permettant des environnements à l'échelle plus humaine, plus et dans ce sens-là, il y a toutes sortes de formes d'expérimentation possibles qui permettent pour les gens là, de concevoir, d'expérimenter sur des concepts qui résultent du fait que les gens ont été formés par la télévision. Et ça, j'ai jamais compris. Comment, aux États-Unis, les jeunes ont des notions assez fondamentales sur la télévision, sur les communications, sur les médias. Puis ici, c'est drôle, on trouve pas ce dialogue-là ou cette forme de conversation dans certains secteurs. Je veux dire, au point que le vidéographe représentait un lieu assez unique, on y avait mis une certaine souplesse, là, une certaine flexibilité, mais évidemment, qui était un peu limitée aussi. Puis ça, en dépit du fait du racolage qu'on a essayé de faire, puis des gens utiliseraient même le mot animation. Là. J'ai toujours la difficulté à l'utiliser, ce mot-là, mais tu sais, le fait de faire venir des gens, le fait de provoquer certaines pièces ou certaines choses, ça n'a pas créé de mouvement. Et dans une certaine mesure, c'est ça qui est étonnant. On pourrait dire, ben oui, mais la raison, c'est parce qu'il y avait mis tellement d'énergie, était mis sur les systèmes de montage, que tout de suite, ça a ouvert la piste du cinéma électronique. C'est vrai, mais s'il y avait eu des gens ouverts ou prêts à réfléchir d'autres formes, les solutions qu'on a amenées au niveau du montage leur permettaient d'aller plus loin au niveau des environnements, au niveau de la présentation sur multi-écran, etc. On dit, la capacité de faire une coupe dans une bande, ça ne veut pas nécessairement dire que la bande va être présentée sur un seul écran. Ça veut juste dire que tu es capable de prendre deux plans et faire une bonne coupe. Et ça ne veut pas dire que tu vas toujours regarder seulement ce ruban-là. Tu pourras en regarder plusieurs rubans simultanément. Tu pourras regarder plusieurs rubans montés proprement et une caméra live au coin de la rue ou un groupe de théâtre qui est de l'autre bord dans une chambre qu'on aurait louée spécifiquement pour ça. Moi, combien groupes qui sont venus ou de jeunes qui sont au niveau du théâtre, j'ai essayé de leur expliquer, j'ai essayé d'y penser. Là. Dans la salle, ça devient une place où vous êtes capable de ramasser le quartier. Vous pouvez faire entrer le quartier dans cette pièce-là dans le temps réel avec des comédiens. Parce que c'est un bout de drame qui pourrait se passer dans une chambre là, au troisième étage. On mettra deux caméras, là, on mettra un switcher, etc. Puis on ramènera ça sur les téléviseurs. Ou bien ça pourra se passer au coin de la rue, puis on verra le gars au coin de la rue, il rendra à tel endroit, aboutir dans le théâtre. Je veux dire, tu sais, les notions spatiales, temporelles, multiplicité des personnages, le personnage réel, physique, et l'image du personnage, etc. Je veux dire, tellement de notions là-dedans, et au niveau d'une certaine jeunesse américaine, ils sont partis avec cette bague-là, mon gars, au bout. Puis nous autres, on est partis avec le module de montage, puis le ruban linéaire au bout.
Mais si on se situe dans le contexte à ce moment-là, c'est-à-dire on était en 71, puis comme tu disais, ça avait bouilli bien gris. Au niveau des mass médias, il y avait eu bien de la critique, par exemple, au niveau de la lourdeur, au niveau de la censure qu'il y avait eu. Et puis, à ça, disons, je te reposerai une question, je te citerai. Tu as déjà dit à un moment donné que, par exemple, si en 68, à Paris, il y avait eu un organisme comme le vidéographe, ça aurait changé beaucoup de choses. Si tu replaces ça dans le contexte québécois, dans ces années-là, s'il y avait eu le vidéographe en 70, pendant la crise d'octobre, ça aurait changé quelque chose, d'après toi, au niveau des communications, ou ça aurait-tu... La formule du vidéographe aurait-tu pu être une espèce de palliatif à la lourdeur des communications?
Il y a une chose que j'aimerais corriger là-dedans. J'ai jamais dit que s'il y avait eu un vidéographe en 68. J'ai toujours dit si en 68, il y avait eu une infrastructure de communication entre les mains des citoyens. Ça ne veut pas nécessairement dire le vidéographe. Ça veut dire à certains endroits des outils de production, des outils de visionnement. OK? Puis une complicité au niveau des gens qui font circuler les bandes. Et ça ne veut pas dire un lieu, ça ne veut pas dire une structure, ça ne veut pas dire un vidéographe. Ça veut dire une complicité, ça veut dire une information de ce qu'il y a. Okay? Il fallait qu'il y ait un certain nombre d'équipements à certains endroits, qu'on sache que c'est là, une complicité pour le connecter, okay? Une volonté d'agir. Et c'est ça, mais ça, ce n'est pas un vidéographe. Pour moi, un vidéographe, c'était juste de faire une expérience intégrée pour dire, écoutez, c'est un médium, servez-vous-en. Puis, pour moi, l'aspect production, c'était clair. Tu comprends? On sait qu'on peut faire un tape avec un porte-pack, puis si tu règles le problème de montage, il va se monter, puis si tu passes à un écran, ça va ressembler à de la télévision. Ou à du cinéma électronique, peu importe, mais ça pourrait dire quelque chose si c'est manipulé comme il faut. Mais ce qui manquait, c'était la distribution. J'ai mis bien de l'enfance pour partir de la distribution. Parce que dans le fond, toute la notion du réseau était possible qu'avec la distribution. Okay. Et c'est étonnant, tu regarderas les budgets, comment l'argent était distribué, la quantité d'argent qu'on a mis sur la publicité, sur l'information et sur la distribution, justement, pour que ça marche. Puis effectivement, ça a marché. Sauf que ça a fallu sur d'autres choses aussi. Des choses que je n'avais pas pensé, j'avais oublié. Oui, Edouard de Vidovici, s'il vous plaît.
Comment? Puis, disons, on s'en restit dans son texte là pour m'expliquer quel type d'utilisation elle avait fait. Quand le vidéographe est sorti, je me rappelle, au mois de juin, Constantino a fait un article qui disait que déjà, le système avait peur que le vidéographe soit un organe qui était pour faire la propagande du séparatisme. Y avait-tu résulté là-dessus des espèces de pressions au niveau de au niveau du contenu, il va y avoir on peut aller jusque-là, mais pas plus loin. Non. Ou si c'était resté simplement au niveau des activités.
C'est pas l'article de. Non, ça n'a rien fait cet article. C'est celui de Luc Perrault. Un petit peu plus tard.
En presse. Sur le géographe.
Il a fait un. Non. Il y a eu un grand splash dans le cahier des arts. Pas ça. Il y a un article avant ça.
Le 11 septembre. 71. Je suis au courant. J'ai revu ça.
Lui, un mémo de 4 pages du président du comité interministériel. Un mémo du directeur, du producteur de Société Nouvelle pour se protéger par rapport au comité interministériel, etc.
Il y avait quoi de
sidéré
dans cet article-là?
Ouais, je me souviens bien, puis là, c'est de mémoire, hein, parce que moi, je n'ai pas regardé. C'est de mémoire à partir de l'époque. Ça parlait d'un projet là, très souple, proposant une nouvelle technologie, se situant dans le milieu, etc., avec une accessibilité très, très poussée. L'expression, permettant l'expression des gens, etc. Bon, dans le fond, ce que le Perrault voulait faire, c'était un peu tester l'affaire. Disant, si les choses se réchauffent comme à l'automne passé, alors le vidéographe va s'ouvrir et tous les gens pourront regarder, discuter ce que les médias font de la situation enflammée. Tu sais, quelque chose comme ça. Autrement dit, ce qu'il disait, c'est « Voici-vous bien, le vidéographe, ça va être un centre de quelque chose, puis si les affaires se mettent à barder, allez voir là, puis allez discuter là, etc. » Donc là, à Ottawa, ils sont envolés, ils disent « Hey, ça vient les quartiers généraux d'une affaire, on n'a pas besoin. » Alors ça a fait du papier qui a circulé. J'ai répondu au mot, puis on n'a pas entendu. Faut dire que constamment, quand on se pointait, on faisait rapport, les gens posaient des questions, il y avait quelques anglophones, d'ailleurs, qui considéraient que c'était les fêtes arrachées comme projet. Il n'y avait jamais été pour. qui ont toujours fighté, qui ont toujours donné des difficultés.
Mais le fait que, par exemple, les gens aux vidéographes, les gens qui présentaient les projets aux vidéographes étaient moins portés à faire une expérimentation technologique du type que celle que fait Boyer, par exemple. C'était pas significatif dans le sens où les gens étaient plus prêts à utiliser le médium comme un outil de travail ou un outil de combat, plus que comme un outil d'expérimentation.
Ouais, mais c'est aussi le puis on n'a pas d'objection, je veux dire, tout ce qu'on avait expérimenté, soit dans le groupe de recherche sociale ou antérieurement, puis tout ça, t'es bien sensible à ça. Tu comprends, on voulait faire un réseau, on voulait une complicité à travers le Québec, on voulait, moi, mon objectif, je dis, la prochaine fois, ça va s'enflammer, les gens vont mettre les mains, les outils pour échanger l'information, pour voir un peu clair, puis établir un système nerveux au niveau de la population, pas au niveau des agences, puis au niveau du gouvernement. Le système nerveux est toujours au niveau du pouvoir. Alors, dans ce sens-là, effectivement, on n'en demandait pas mieux que... Je me souviens, en 70, l'été 70, j'avais présenté le projet au printemps, comité du programme, j'avais eu plusieurs rencontres dans le comité du programme, on avait discuté, etc. J'avais un peu d'argent pour faire la recherche, là, pour faire la conception, etc. Et il y avait une autorisation au comité du programme qui disait, bon, dans certaines conditions, à l'étape recherche, tu pouvais tourner. Alors, j'ai voulu me prévaloir de ça, puis je suis allé voir le directeur de la production, j'ai dit, écoute, j'ai parlé avec du monde, tu sais, j'ai essayé de faire des contacts, parce qu'il y avait un grand bout de ce projet-là qui était intellectuel, là, je veux dire, bon, j'étais pas, moi, sur le carré Saint-Louis, tu sais, j'avais pas ma chambre là, bon, etc. Alors, j'ai essayé de me brancher, rencontrer du monde, des jeunes, en 70, puis, bon, il y avait un gars qui est arrivé, puis... Il faisait du 8 mm, etc. On discutait du 8 mm, film amateur, on parlait de vidéo. Puis, à un moment donné, il dit, moi, je voudrais bien faire quelque chose. Puis, il y a certains projets intéressants. Je dis, écoute, on va en parler. Après ça, il a mis ça sur papier. Puis, moi, j'ai servi de ça. Puis, j'ai dit, OK. On va le directeur de la production. J'ai dit, écoute, pour tester l'hypothèse du vidéographe, moi, je veux autoriser ce gars-là à partir avec un porte-pack, puis de tourner, puis on va voir. Effectivement, ça a du sens. C'est une façon de tester l'hypothèse vidéo. Et là, le directeur de la production, il dit non. Lui, il est peur. Parce que, bon, après ça, l'histoire lui a donné raison. Mais son projet était celui-ci. En 69, ce gars-là était allé en Gaspésie, particulièrement en Percé. Et il avait vécu les premiers soubresauts qu'avait créé la maison du pêcheur. Et là, c'était la deuxième année. Cette année, ça s'appelait, c'était un peu plus organisé que c'est ça, ça s'appelait la maison du pêcheur libre. Alors, lui, il proposait, c'était prévu, il s'en allait sur le pouce. Il montait à Percé. Puis, il y avait effectivement la raison de la maison du pêcheur libre, c'est le groupement, la communauté un peu hippie à l'époque là, qui existait. Bon. Alors, il dit, moi, j'y vais avec ma fille sur le pouce. Je peux prendre n'importe quoi. Je vais là-bas. On va voir comment la communauté des jeunes fonctionne là-bas, comment est-ce qu'effectivement, pour manger, des fois ils volent, puis comment est-ce que ça agace un peu la localité, puis tout ça, bon, puis on prétend que ça a une mauvaise influence sur l'industrie touristique, etc., comment l'establishment local réagit, etc. Puis qu'est-ce qui se passe à la maison du pêcheur libre? Et l'information qu'il y avait à ce moment-là, il dit, j'ai appris. Il y a 3-4 animateurs qui ont été plantés là pour politiser les jeunes. Et n'oublie pas, on est dans le flower power. Là. C'est-à-dire que, bon, les jeunes, on cherche des nouvelles valeurs, mais pas nécessairement en devenant militants.
Non, au contraire.
Exactement. Ce qui fait que, dans sa vision, cette injection d'animateurs politisés des jeunes dans les zones percées est considérée ça. Et l'information était complétée par ceci. Ils sont financés par le Parti communiste. Alors, c'est intéressant. C'est un projet en or. 1, monter sur le pouce. 2, le milieu, la réaction de la communauté, puis ce phénomène-là. On avait fait une stratégie par rapport à ça, au niveau de comment tourner, puis inventorier, c'est effectivement, hein, il y avait un mécanisme. Bon. Devant le projet, le directeur de la production, il dit non. Il y a eu la trouille que le porte-pac avec l'étiquette de l'office dessus se fait se ramasser par la police, puis il a retrouvé des manchettes de journaux, puis c'était ses premiers jours comme directeur de la production. Il n'a pas commencé par ça.
C'était qui à cette époque? Comment il
s'appelle? Dignard.
Gilles
Dignard. Qui lui-même, à un moment donné, a fait un grand drop-out spectaculaire. Qui a été initié à la suite de la lecture de Greening of America. C'est un livre classique à ce moment-là. Il s'est avéré que quelques-uns des animateurs, c'était Paul Rose, puis qui était à la maison du Pêcheur. Bon, alors dans ce sens-là, tu comprends. De par la période où j'ai fait du cinéma amateur, puis la difficulté de faire du cinéma amateur quand tu es tout seul, non? Avec le 8 mm à l'époque, l'impossibilité d'avoir le son, okay? Les frustrations, les délais, les difficultés d'apprentissage, etc. Et quand tu mets en parallèle avec ça, vécu, là, personnellement, le magnétoscope, ben, ça devient quasiment un outil presque miraculeux. Commencer. Il ramasse la parole synchrone. Là, tout à coup, il ramasse la réalité. Le Super 8 ne fait pas ça. Il commence à essayer de le faire. Là, ça ramasse la réalité. T'sais. Puis avec une grande générosité, là, c'est pas 3 minutes en cassette. Et avec une générosité telle que tu rembobines puis tu peux réutiliser. T'sais. Je veux dire, c'est incroyable par rapport au 8 mm. Alors, effectivement, j'ai aussi, je veux dire, c'est peut-être double personnalité, j'ai aussi travaillé très fort pour être capable d'en faire un vrai cinéma électronique. Mais par contre, j'étais aussi très sensibilisé par l'environnement. Tu sais, au niveau de l'expérimentation, au niveau concept, communication, etc. Sauf que c'est la facette cinéma électronique qui a gagné. Tu as raison quand tu dis qu'il y avait un climat politique qui faisait que les gens avaient tellement quelque chose à dire, là, puis quelque chose à pousser, puis à essayer de respirer par le phénomène d'étouffement des événements d'octobre, etc., que ça a pris cette piste-là.
Puis,
moi, il y a une chose que j'aimerais rappeler, là. D'ailleurs, tu as joué un rôle très important, c'est la rencontre. C'est la rencontre. Parce
que. Tu penses, c'était la première phase des premiers 6 mois du vidéographe.
C'est ça. C'était lors du festival. C'est-à-dire, ouais. Je pense que c'est une des dernières journées du festival.
Ou une des premières, ça précédait pas.
C'était peut-être une soirée.
Je pense que le vendredi, il y avait réunion des producteurs. Samedi, il y avait visionnement. Il y avait une espèce de 3-4 jours,
ça va. Ouais, c'est ça. Bon, puis effectivement, l'intention initiale, c'était d'être bien ouvert, tu sais. Puis moi, j'étais bien déçu. Bon, pour commencer, on était bien fatigué, parce que le festival, faire marché de vidéographe, ça n'a pas été facile. Okay? Parce que, je me souviens, au mois de février, on savait tellement de projets, il fallait programmer pendant 2 jours consécutifs. Tu te souviens? D'ailleurs, on avait tablé ce problème-là à l'Assemblée, à cette réunion-là. Hey, on programmait 2 jours consécutifs. On était au début du vidéographe, ça avait tous les problèmes. C'était incroyable. En plus de ça.
2 jours consécutifs. Il y a eu presque une semaine.
Ça, il y a eu. Non, mais je parle du comité du programme.
Ah, OK.
Comité du programme. Ouais. Ça prenait tout le staff pendant 2 jours. Il restait 3 jours, 4 jours pour faire marcher à bois. Et c'était en train de la faire basculer. On perdait le contrôle. Tout commençait. Puis on organise un festival par-dessus ça. Alors, tout le monde était tendu à la corde. Là. T'as vu, moi, j'étais fatigué. Cette soirée-là m'a bien déçu. Les gens, plutôt qu'ils donnaient bon, dans l'objectif d'installer un médium avec ses capacités de communiquer dans des secteurs précis, puis entre les mains de certains individus qui ont des engagements politiques, de faire des actions particulières. Il y avait aussi d'autres secteurs. Autre, un, moi, où j'étais rendu, en tout cas au niveau de la réflexion en termes de cinéma général, là, c'est que le documentaire, c'est bien beau. Le film à préoccupation sociale, ou le film même à engagement politique, c'est bien beau, mais ça a ses limites. Ça a d'autant plus ses limites que si la forme d'engagement que tu as, ou la forme de préoccupation sociale que tu as, te fait respecter les individus. Si à ce moment-là, tu te mets à respecter les individus avec qui tu fais le film, ou sur qui tu fais le film, alors ça devient les limites de ton film. Parce que il se révèle tout le temps que tu dis, ben écoute, il l'a dit, je l'ai sur film, mais je peux pas le mettre. Parce que si je le mets, moi je sais qu'il va le voir, ces affaires-là. Okay? Puis il va se faire rafler dessus. Tu ne le mets pas. Pourtant, cette information-là est capitale. Et tu ne le mets pas. Ben, par respect à cet individu, tu as le choix. Tu fais pas d'autocensure, le gars est en taule. Tu sais, ici, quand ça a été déclaré illégal, FLQ et tout ça, il y a du monde qui a brûlé du négatif parce qu'on avait le gars en train de gosser FLQ sur un poteau. Bon, ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait sortir ça, on a brûlé ça. Parce que si on ne l'avait pas fait, bon, il y a du monde qui serait... La liste aurait été plus grande au moment où ils ont raflé le monde. Dans ce sens-là, si tu respectes les individus, tu es obligé d'évaluer ton geste, puis il y a des fois, le geste, tu ne le poses pas. Moi, je pense que ce n'est pas de l'autocensure. C'est du respect de l'individu. C'est de comprendre les conséquences du geste que tu peux poser. Mais ça devient une limite importante. Et au niveau de Saint-Jérôme, au niveau de tout le temps, au niveau de l'École des autres, au niveau de la Petite Bourgogne, je le voyais tout le temps sur l'écran. Je dis, ah, c'est fantastique. Mais on ne peut pas le mettre. Parce que la personne n'a pas réalisé c'est quoi le film, c'est quoi dire ça devant une caméra. Puis dans ce sens-là...
C'est souvent un stimulus qui naissait de l'enflammement d'être filmé.
C'est ça. Et alors tu te dis, mais c'est épouvantable. Si on regarde ce qu'il y a dans le film, puis si on regarde ce qu'on sait, la petite histoire autour du film, la petite histoire est plus importante et plus riche d'informations que le film lui-même. Alors tu te dis, donc c'est pas le film qui devrait exister. Ce qu'il faut qu'il existe, c'est une situation qui fait que tu ramasses cette réalité-là. OK? Puis après ça, une scénarisation puis une démarche fiction pour mettre cette réalité-là, puis là, régler tous les problèmes avec le monde parce que c'est pas identifié à des personnes particulières. Et de là, pour moi, à long terme, quand les gens ont le métier, le talent, la capacité de scénariser, de faire la bonne recherche, de scénariser, puis de faire la mise en scène comme il faut, pour moi, la fiction permet plus. Au niveau du message de type, là, universel, là, tu sais, de charrier, puis de river le clou, là, bien au fond. Je l'avais vécu, ça, je l'avais vu. Alors, quand, dans cette réunion-là, il y a des gens très, très engagés qui venaient là, par le biais de l'animation sociale. Puis d'ailleurs, le porte-pac a été longtemps identifié avec l'animation sociale. Puis moi, je me situais plus en secteur de la communication. OK? J'ai eu de la misère pendant un bout de temps. Pour reprendre ce chapitre-là. Puis les gars, ils ont dit, on a, dans la programmation, là, vous perdez votre temps, parce qu'il faudrait faire des affaires sur telle affaire. Mais une chose certaine, c'est cette affaire-là de fiction, là, c'est de la connerie. Hein? Les gars l'ont dit, il y a chose, qui s'y avait fait un... Les deux jeunes, là, les deux frères là, qui vont voler, etc., là, ça s'appelle... la mère, le frère fait tuer, là. C'était pas mal. Il y avait entre autres une séquence d'atmosphère. J'avais toujours trouvé que ce gars-là avait du talent. Là, c'était une partie de poule. Là. L'atmosphère dans cette partie de poule-là était extraordinaire. Ce gars-là a du talent. Un jour, il va réapparaître, je suis certain de ça. Bon, le scénario n'était pas. Mais pour moi, c'était essentiel de démontrer qu'on pouvait faire de la fiction. Parce que pour moi, à long terme, la fiction, c'était l'âle. C'est la façon de se protéger contre la police, c'est la façon de protéger le monde. Tu as les informations, tu sais c'est quoi les informations, tu scénarises, puis tu fais de la fiction. Après ça, les gens identifient les affaires, disent, c'est nous autres, sans savoir qui c'est.
est-ce que les gens s'identifient? C'est là le problème de la fiction aussi. C'est que les gens, en regardant de la fiction, comme ils regardent Rue des Pignons, ont l'impression que c'est pas eux autres dans tout. Ils ne s'identifient pas aux
problèmes qui sont posés de cette façon-là. Ça dépend, ouais, c'est vrai. Je pense que les gens s'identifient. D'ailleurs, c'est probablement pourquoi certaines choses, qui, vues avec une perspective plus intellectuelle, disent c'est de la quêtainerie, mais si tu fais l'analyse de contenu, puis tu regardes les gens qui, finalement, qui le regardent beaucoup, c'est parce qu'il y a un mécanisme d'identification.
Mais idéalement, disons, pour perfectionner la fiction, il aurait fallu avoir une espèce de mécanisme de scénarisation par le documentaire pour ensuite en arriver à une scénarisation de fiction.
Mais on était aussi sur cette piste-là, parce que l'insertion du vidéo, la justification qu'on donnait toujours de la présence du vidéo à l'ONF, c'était ça.
Ouais.
On disait ça passait de l'outil de recherche. C'est pour, ça que, c'est pour ça que les cinéastes le toléraient.
Ouais.
Et effectivement, il y en a qui l'ont fait.
Ah, d'ailleurs, s'en est servi, en pour...
Oui, mais Jutra l'avait fait pour voir. Alors, on avait cette preuve-là.
Et si on regarde du point de vue de la distribution des documents aux vidéographes, on se rend compte que les documents qui sont les plus en demande, c'est justement des documentaires. C'est justement pas des films de fiction.
Ouais.
Même si les problèmes sont bien posés dans un certain nombre de vidéos.
Ouais.
Je veux dire, en tout cas, pour moi, il apparaît assez clairement que le documentaire sert plus d'outils d'analyse et d'outils de travail qu'un film de fiction.
Mais oui, mon objectif, c'était pas de faire du vidéographe un organisme de production de fiction, mais c'était de défendre la possibilité. C'était juste ça. Et moi, je me suis choqué ce soir-là. J'ai perdu mon cool, là. Justement parce que, puis en tout cas, ça a barré des affaires. J'ai dit, le comité du programme, ils l'auront pas. J'ai dit, je veux pas faire fermer le comité du programme. Je veux pas faire fermer certaines possibilités. Il y avait certaines personnes là, qui étaient plus dans le bague, l'animation sociale, on va aller dans tel endroit, puis telle usine, puis on va mettre le porte-pac dans les mains du monde. Là. Puis ça, là, cette bague-là, je le connaissais. Hey, je les avais payés, les animateurs, avec un porte-pac là, dans leur char pendant 6 mois, compte de dépenses, 75 bobines, etc. Puis ça ne donnait pas grand-chose. Okay? Parce que ces gens-là, ils ne rencontraient pas les gens disponibles pour faire les documents. Ils rencontraient la hiérarchie du syndicat. La hiérarchie du syndicat. Est pogné dans tous les problèmes, dans tous les crises, ça prend tout leur temps. D'ailleurs, ils ont un problème avec leur femme au niveau. Tu viens pas leur donner un porte-à-porte et dire bon, tu commences à apprendre à cadrer, à apprendre à faire le foyer, etc. Résultat, ils étaient en contact avec les mauvaises personnes. D'ailleurs, mon hypothèse s'est vérifiée d'autres façons. Ça a été le cas là, de SOS Soma. Là. Ça, je suis prêt à me mettre dans le feu. J'aurais eu un budget de 20 000 piastres. J'aurais embauché pendant un an un animateur. Il aurait donné un porte-pac, puis tout ce qu'il faut. Il aurait payé les charges, le compte de dépenses, etc. Puis il aurait été tout son temps dans l'usine, il n'aurait pas rencontré les deux gars qui ont fait SOSO. Je suis sûr de ça. Parce que les deux gars qui ont fait SOSO n'ont pas réellement politisé. C'est deux bretteux. C'est deux gars qui brettent avec le stéréo, puis ils réparent leurs charges, les affaires de même. OK. Sauf que c'est du monde comme les autres. Et quand ils ont vu sur leur carte de chez eux qu'il y avait du monde comme les autres qui faisait des tapes, puis ils ont vu pendant 10 soirs consécutifs, sur 2 canaux. OK? Non seulement ça, ils téléphonaient, ils les avaient. Ils ont réalisé que ça pouvait faire de la fiction, que ça pouvait faire de la pornographie, que ça pouvait faire des documents engagés, sociaux, etc. Ça pouvait traiter de plein d'affaires. Ça avait plusieurs formes, plusieurs... Résultat, les gars ont dit, hostie, nous autres, avec l'usine qui ferme, moi, tout ce que je fais, c'est poser la porte. Je suis un des meilleurs à poser la porte. C'est une porte de Renault. Puis si l'usine ferme, je fais 0. Et ça, là, il donne un grand choc. Le gars, il dit, je me sens prêt pour utiliser un outil. Je vis un problème. J'ai vu qu'effectivement, cet outil-là permet toutes sortes de choses. Je vis le problème. Il est allé chercher une porte-à-porte. Il l'a tourné. L'animateur que j'aurais injecté dans cette usine-là n'aurait jamais rencontré ce gars-là. Je suis sûr de ça. Oui.
À l'animation sociale. Ça, je pense que c'est la référence que tu dis dans un de ces rapports. Puis que l'établissement le percevait comme ça. Toi, ça avait, c'était quoi ton attitude, disons, face à ça?
Ben, moi,
ta perception de ça?
Pour moi, c'était la façon de décentraliser l'animation sociale. Je me disais, qui s'était passé, là, c'est qu'il y avait un certain nombre d'animateurs à qui on avait donné des mandats, puis ils passaient des porte-parole, etc. Ça se faisait du côté anglais, à travers le Canada, pour faire ça. Si tu avais une gang, je sais pas moi, à Pointe-Saint-Charles, un groupe de citoyens qui était le fun, là, tu parachutais un porte-parole. Puis même, tu payais un animateur à temps partiel ou temps plein pendant un certain temps. Ça se faisait systématiquement à travers le Canada, ça. Dans le programme Société Nouvelle Challenge aujourd'hui. Ça faisait quoi? Ça faisait que, bon, l'animateur, OK, il était une personne de ressources, avait certains avantages. Hein. Mais je veux dire, le vidéo qui était là, là, il faisait pas grand-chose. Il encombrait, il ennuyait. Il drainait les énergies des gens dans le mauvais sens. Parce que dans le fond, tout ce qui était un Polaroid, ça enregistrait puis ça restituait. Okay. Alors les gens enregistraient, ils avaient bien les bobines, pas grand monde les visionnait. Personne ne pouvait faire de montage, personne s'était préoccupé du problème de montage. Tout le monde aurait aimé que ça ait été possible, mais je veux dire, c'était tellement atomisé pour tout qu'il n'y avait rien qui se passait. Allô? Oui. Et c'était atomisé. Ce qui fait que ça ne produisait pas en termes d'outils de communication, quel que soit le type de message que ça communique, ça ne communiquait pas. Résultat, moi je me suis dit, consolidons, créons un lieu, ayons une attitude ouverte, puis ramassons des ressources pour régler un certain nombre de problèmes, créons une atmosphère propice à la production, ayons une attitude ouverte au point que ça roule 24 heures par jour, OK? Puis à ce moment-là, il y a un comité de programmation, comme il y en a un à l'Office national du film, comme, bon, pire que ça, comme il y a des producteurs, parce que les projets d'animation ne se rendaient pas toujours au comité de programmation, puis le producteur, il disait oui, puis il disait non, puis bon, pourquoi? Sur quelle base? Moi, je me disais, ben, un animateur. Je me disais, bon, ben, si réellement il y a un animateur qui est à quelque part, qui travaille avec du monde, puis à un moment donné, il découvre que son groupe, les citoyens avec qui il travaille, sont rendus au point de considérer que dans leur action, après avoir utilisé la machine à mimiographier un bulletin local, etc., là, après avoir utilisé un certain nombre de moyens, il arrive à la conclusion que la vidéo ou un document est important, soit pour ramasser des problèmes du milieu, puis amener ça au maire, au conseil municipal, ou bien à l'association de santé, ou à telle affaire, tu sais, faire une pression avec un document audiovisuel qui arrive avec le projet au vidéographe, puis il y a je connaissais personne qui était membre du comité du programme du vidéographe qui aurait dit non à un projet qui se tenait. Et dans ce sens-là, pour moi, c'était d'amener un nouveau moyen à l'animation sociale. C'est que le gars avait pu achalier le porte-pâque. Okay? Il avait juste à se présenter avec un projet. Et on y donnait ce qu'on n'y aurait jamais donné dans le passé. Les moyens de montage, les moyens de visionnement, la salle de visionnement, puis les capacités de copiage pour que le document puisse circuler, etc. Dans ce sens-là, moi, j'ai toujours considéré que ça faisait avancer des affaires, même dans le sens de l'animation sociale.
Salut.
Salut. Sauf que, si tu veux, mon interprétation de la réaction des gens, c'est que le porte-parole entre les mains des animateurs, selon l'ancienne formule quand l'office là, était là, c'était un status symbol. Parce que qui l'animateur qui rentre dans une communauté? Quand il arrivait avec un porte-parole, ça le valorisait en maudit. OK? Puis toutes les demandes des animateurs, en première phase, c'était toujours, je veux savoir ton porte-parole pendant 6 mois. Ça s'abatche. Ça badge, il fallait qu'il en mette sur son habit à chaque fois qu'il mettait son habit. Le porte-parole n'avait besoin pendant 6 mois. Pourquoi? Si tu veux faire quelque chose, en termes de communication, dans les documents, etc., dis-le. On va te passer le porte-parole pendant la période où tu as besoin de faire le document, on va t'assister, etc.
Ouais. Mais par rapport à ça, il y avait eu une tentative qui avait été faite lors du Front commun en 72, je pense, où les vidéographes idéographe avait proposé de mettre ses équipements au service des syndicats, des partis fonds communs. Puis, je pense que ça n'avait pas marché. Je veux dire, dans le sens où il n'y avait pas eu tellement de réponses par rapport à ça. Tout le monde n'avait pas tellement embarqué. Dire, comment ça s'était passé, cette affaire?
Ça, c'est l'occupation. Fonds communs, c'est en 72, ça? Mars, 72? Ce qui s'était passé, c'était à peu près ceci. Les choses commençaient à se réchauffer. Bon, si tu tiens compte de toute la réflexion qu'il y a avant le vidéographe, pendant la mise sur pied du vidéographe, comment les journalistes avaient écrit des affaires, exprimé des choses, puis 71, rien s'était réchauffé, tout à coup, en 72, ça commence à se réchauffer, on regardait les affaires de près. On a dit, bon, mais c'est le temps. Puis on n'avait pas de feedback, on n'avait pas de... quand les choses ont commencé, je me suis dit, c'était quoi l'événement là, qui a réellement démontré que ça allait être chaud? On a aligné les téléviseurs, on a commencé par dire, on va ramasser toutes les nouvelles. Tu te souviens de ça? Et c'est le staff du vidéographe qui a amorcé ça. Nous autres même, pas le comité du programme, pas à partir d'un projet, etc. On a mis trois téléviseurs, je pense, puis trois magnétoscopes. Puis on a pris quelqu'un, on a dit, hey, tu t'assois là, non? Puis du moment que les nouvelles commencent, tu ramasses. S'il y a un bulletin spécial, tu ramasses. Puis tout ça, on les a montés un peu plus, on les a transférés sur cassette, puis toutes les nouvelles de Radio-Canada étaient disponibles. Puis Canadis, là, puis les témoignages. D'un coup, une conférence de presse de Bourassa, on l'avait. On ramassait tout. Ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait un lieu qui conserve la mémoire audiovisuelle des événements qui se passaient. On a commencé par ça. Puis après ça, on regardait le monde et en face, on disait, t'as-tu une idée? Man, tu nous demandes-tu quelque chose? T'as-tu besoin de quelque chose? Tu sais? Puis on a un peu essayé d'entrer l'idée... le monde qui gravitait autour, puis c'est Lison qui a réagi le premier. Ah ouais, celle qui avait fait l'affaire de la presse. Lison a utilisé un terme qui sortait. Le terme qui sortait à cette époque-là, là, c'était occupation, parce qu'on commençait à occuper les postes de radio, etc. Alors là, ça leur a donné une idée. Les travailleurs sont mis à occuper, à cette île, là, les gars qui étaient dans le vidéographe, ils ont eu une idée, ils ont dit, on occupe le vidéographe. Alors, moi, j'ai dit, faut que tu tiennes compte de tout le bruit en arrière, tu sais, les mémos, les présidents, là, les réactions, etc. J'ai dit, écris-moi ça sur un papier. Un projet. Tu veux occuper le vidéographe. On a fait une réunion du comité du programme. On dit, on vient de recevoir un projet. Le projet, c'est d'occuper le vidéographe. Êtes-vous d'accord? Tout le monde a dit oui, OK. Projet numéro un tel, on l'a mis en filière. That's it. It's all yours. C'est comme ça que ça s'est passé. Et le projet disait, on va faire du newsreel, parce que ça, c'est une autre affaire. Ça faisait longtemps que je parlais du newsreel. J'avais même eu des réunions avec la PLQ pour amorcer ça, dès le début. Tu n'avais pas d'artisan. Il y a une chose que je ne voulais pas faire. Puis ça a été un principe. Je pense que c'est peut-être le seul principe qui diffère de la plupart des autres projets vidéo. C'est que le personnel qui coordonne, il ne touche pas à la production. Ça, là, ce principe-là, j'y ai tenu tout le temps. Puis j'ai dit, le newsreel, il ne se fera pas tant que quelqu'un de l'extérieur ne voudra le faire. Parce que tu comprends? Logiquement, tu as l'équipement, puis tu as une bonne idée comment ça peut se passer, puis tu as le contact avec la PLQ qui est prêt à te fournir l'information, là, parce que les autres sont branchés, ils ont un réseau d'information. Puis toi, tu es branché, tu as amorcé la distribution, puis tu as déjà quelques contacts à la distribution. Tout est là. La seule chose qui manque, c'est quelqu'un pour le faire. Puis tu dis à Jean-Pierre Mars, puis tu embarques toi aussi, puis tu dis à Jacques Benoît, tu dis, hey man, on embarque-tu, on le fait. Sauf que quand on est parti, on ferme la porte, puis le vidéographe n'est plus. Ça, c'est un principe sur lequel pas bouger. Il y a des gars qui ont fait des tapes pour des raisons d'hygiène mentale. Jacques Benoît a fait le temps d'une prière. Mais, je veux dire, c'est à ses loisirs, de toute façon. Jean-Pierre Mars a fait son affaire, là, ses collèges. Lui, c'est à ses loisirs. C'était ses fins de semaine, tout ça. Tu comprends? C'est des gens qui faisaient du cinéma et qui voulaient en faire. Ça, c'est un mécanisme d'hygiène mentale, c'est autre chose. Mais on n'a pas basé notre démarche au vidéographe sur la production du personnage. Je ne sais pas pourquoi je disais ça. Alors, ce qui a fait que, bon, on avait des bonnes idées sur qu'est-ce qui aurait pu se passer au niveau du vidéographe pendant l'occupation, pendant le front commun. Mais les gens étaient balbutiés. Eux, ils étaient au début au niveau des médias, au niveau des communications, au niveau de la capacité d'utiliser une caméra, etc. En plus de ça, c'est que le fait d'avoir à occuper. Peut-être qu'on n'aurait pas dû le faire, mais une chose certaine, c'est qu'on était fatigué. La job était rough. Hey, on y mettait là, 14 puis 16 heures par jour, là, au début, là, 6 puis 16 jours par semaine. On est toujours intrigué comment ça se fait, il n'y a pas de divorcé par après. Tu sais, être à job. On était fatigué, fait que quand les gens disent on occupe, tout ça, on est occupé, fait que moi, je me souviens d'avoir pris. Quelques demi-journées pendant la période d'occupation, mais on revenait tous les jours faire le tour, on regardait. Puis, en fait, ça regardait les gens, il y avait de la misère et tout ça. C'est pas drôle, tu sais. La théorie est le fun, mais le porte-parc, il faut que tu soudes la blague, puis il faut que tu fasses attention, il faut que tu mettes ça à charge, puis il faut t'identifier les bobines. Alors, pas de discipline, pas de contrôle, rien de tout ça. Les bobines, on ne sait plus où ils sont. Le porte-parc n'est pas chargé, il n'y a pas de batterie. On a oublié le corps, on n'a pas checké avant. C'est toujours le même problème, tu sais. Il y a bien du monde qui ont un discours très engagé. Mais quand la révolution a lieu, ils veulent être sur le bord du trottoir avec leur drapeau. Ils veulent pas la manquer. Ouais. Ils veulent pas être en arrière en train de téléphoner, faire des groupements, le booking, la réservation, checker les affaires, s'assurer que, tu sais, le monde va avoir des sandwichs au bout de 3 heures pour être capable de la continuer, la révolution. Et ils ont trouvé ça dur en maudit, la vidéographe. Et ça s'est effrité un petit peu à cause de ça. Puis en plus de ça, parce qu'au niveau du concept, ils ne savaient pas trop quoi faire. Mais il y a eu des moments de fun. Et les moments les plus fun ont été avec les documents déjà faits. Continuons le combat. On avait mis un moniteur dans la vitrine. On avait mis un moniteur dans la vitrine, puis un haut-parleur dehors. Du monde, il installait des chaises sur le trottoir, puis ça faisait du bruit, ça créait une atmosphère. Puis dans le théâtre, c'était toujours booké, puis on passait les nouvelles, puis des fois, on pesait ses pitons, puis c'était live. C'était Bourassa. Il y avait une atmosphère, mais là encore, j'ai dit, voilà le moment pour partir le News Reel. On a l'événement. Alors, je me souviens, c'est Coxé, Mona, écoute, là, la liste de toi et télévision comme nous, avec des numéros de téléphone des gens qui s'en occupent. Téléphone-leur. Dis-leur qu'on a des tapes de film, de ce qui se passe. On va leur envoyer une bobine, etc. Il a fait 3 téléphones, puis tu comprends, à l'autre bout, le gars ne dit pas oui. Il faut que tu y expliques, il faut que tu te motives, il faut que tu expliques que même si ça vient de Montréal, tu n'es pas un écœurant, puis c'est pas toi, Radio-Canada, puis tout ça. Sauf que c'est bon. Alors, c'est tout le problème de Montréal, dans la région. Puis on vivait bien plus intensément à ce moment-là parce que ceux qui se mettaient à faire de la télévision communautaire, c'était la réalisation de leur autonomie en termes médias. Et dans ce sens-là, les gars, ils disaient, bon, l'amant, on vient de régler Montréal. On a notre porte-à-porte, on a notre télévision communautaire, on produit localement. Résultat, c'est pas les pieds de Montréal qui vont nous obliger à nous reconnecter au niveau communautaire avec Montréal. Et ils avaient un peu raison, surtout qu'ils étaient insécures. Bon, alors, je suis sûr que Newsreel un jour va exister. Mais ce que je m'étais trompé, c'est que j'avais pas fait l'analyse d'état d'esprit, d'état, puis la bataille que les gens menaient dans les régions par rapport à Montréal. J'étais pas conscient de ça. J'étais trop Montréal pour ça. Mon appartement. Dans ce sens-là, ça, c'est quelque chose qui était trop prématuré.
Mais ça va venir. Par rapport à ça, dans le sens où on parle de réseau, par exemple, de réseau parallèle de communication, du système nerveux, là, populaire, je veux dire, ça implique que les gens possèdent des moyens de production pour le faire. comme en 1968, le monde distribuait les cassettes en dessous des... bon. Mais, je veux dire, par rapport aux vidéographes à Montréal, c'était pas le cas. Parce que le monde possédait pas cet outil-là. Dans le sens où il y avait déjà une organisation comme celle de l'Office, comité du programme, tout ça, qui empêchait peut-être, dans une certaine mesure, la possession des moyens de production par le monde. C'est peut-être ça, par exemple, qui aurait empêché la formation d'un réseau populaire réel, ou que c'était peut-être parachuté, ou...
Ben... supposons que... Tu peux exister de deux façons. Ou bien t'es riche, ou bien t'es pauvre. Si t'es riche, ça veut dire que t'as plus de ressources que de besoins que t'as de ces ressources. Si t'es pauvre, t'as plus de besoins que les ressources que tu possèdes. Le vidéographe riche, ça veut dire quoi? Le vidéographe riche, ça veut dire qu'on a beaucoup d'équipements, OK? Qui dépasse le besoin des gens à l'utiliser. Résultat, on est obligé d'embaucher du bon, dont la fonction, c'est d'expliquer qu'on a ces ressources-là pour qu'ils viennent les utiliser. Moi, j'ai toujours dit qu'un projet riche, c'est normalement un projet avec un animateur. En tout cas, au niveau de la vidéo. Parce que son porte-pack, son équipement, est moins utilisé. Il peut utiliser. Résultat, il essaie de solliciter les gens à l'utiliser. Le vidéographe était pauvre. On programmait combien de jours par semaine. Donc, il y avait combien de demandes pour 6 porte-packs. C'était colossal. C'était la grande pauvreté. Et dans ce sens-là, ou bien tu utilises l'arbitraire, ou bien tu essaies de raisonner puis d'évaluer. Alors, l'arbitraire, c'est à 6 heures du matin, on ouvre la porte, les 6 premiers ont le porte-pack, puis quand ils reviendront, on ouvrira la porte pour une personne, deux personnes, selon le nombre de porte-packs qui seront revenus. Ça, c'est l'arbitraire qui essaie de vivre la pauvreté. Essayer de raisonner puis d'évaluer, ben, c'est le comité du programme.
Dans ce sens-là, par exemple, le vidéographe a drainé au niveau de l'investissement soit du ministère des Communications ou de l'Office, pas mal d'argent, je veux dire, au niveau de l'organisation puis tout ça. Puis ça n'a pas freiné dans... Moi, je me pose la question souvent, ça n'a pas freiné dans une certaine mesure une organisation qui part de la base du monde, au lieu de venir de l'Office, qui s'installe, ça juste un ennemi, que d'empêcher que cet argent-là, dans une certaine mesure, soit vraiment approprié par des groupes de citoyens, des groupes populaires qui veulent faire du vidéo. Ça n'a pas arrêté ça un peu. Parce que si tu prends le contexte de Montréal, je veux dire, il y a très peu de groupes organisés en vidéo. Si tu tournes autour de Montréal, tu as des TVC, tu as des groupes vidéo. Mais à Montréal, il y a très peu de choses qui existent. Justement, je ne dis pas que c'est peut-être rien qu'à cause de ça, mais pour une bonne part, c'est parce que le vidéographe est là. Puis le Conseil des arts te refuse des subventions en disant que le vidéographe est là, il va te passer l'équipement. Et ça empêche dans une certaine mesure la formation de groupes de base là, qui viennent des différents quartiers ou des différents milieux pour faire de la production vidéo. Je dis, dans ce sens-là, à un moment donné, tu avais dit aussi que le vidéographe, ça serait peut-être une bonne affaire qui crève, qui meurt, je dis, que ça arrête. Je dis, ta perception par rapport à ça, c'est quoi?
Ben, ce que tu dis, c'est une possibilité. Par contre, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait arriver à essayer à trouver effectivement si tu as raison ou non. Je sais pas. C'est toujours le problème d'une situation non scientifique, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Alors, c'est ou bien une situation ou l'autre, mais il n'y a jamais le contrôle qui permet de voir la différence entre avec et sans. Que je te dise. La question c'est est-ce que réellement ça l'a empêché? Bon, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que il faudrait avoir deux Montréal ou deux grandes villes comme Montréal au Québec. Une qui aurait eu le vidéographe, une qui n'aurait pas eu le vidéographe. Sauf que c'est impossible, parce qu'il y en a eu juste une ville comme Montréal au Québec. Il y en a juste une au Canada. Okay. Il y a le tiers du Québec à Montréal, puis le huitième du Canada à Montréal. Bon. Ce qui fait que n'importe quoi en dehors de Montréal est très différent. Tu peux pas avoir une télévision communautaire à Montréal. Hein? Penses-tu?
Non.
Bon. Tu peux pas avoir de télévision communautaire à Montréal. Puis dans les régions, tu ne peux pas avoir de vidéographe. Parce que les besoins dans une région, c'est de l'information immédiate. C'est pas un regard assez universel sur l'avortement. Tu sais, réfléchir, monter, c'est une période de 3 mois. Bon. Alors, moi, je pense que il y aurait peut-être eu, s'il n'y avait pas eu vidéographe, là, effectivement, il y aurait peut-être eu plus de groupes. Moi, je pense que aux organismes qui ont eu à mettre de l'argent dans le secteur vidéo dans la région de Montréal, auraient eu à mettre bien plus d'argent. Puis je pense qu'à la fin de compte, la productivité de tout ça aurait été moins grande. Parce que ça aurait fait bien des porte-parole. Ça aurait fait bien des petits locaux aménagés avec une ligne téléphonique là, avec du monde plus ou moins présent là, là, souvent fermé. Ça aurait fait peu de gens avec des systèmes de montage. T'sais? Puis ça aurait jamais fait la tentative de distribution. Puis tout le monde aurait essayé de toutes sortes de façons de plastrer les affaires. Puis le résultat net, on n'aurait peut-être pas vécu toutes les étapes qu'on a vécues à venir jusqu'à maintenant. Puis dans le fond, on serait peut-être en train de se demander, là, une fois X millions de dollars mis dans le secteur vidéo dans la région de Montréal, là, où sont les fameux tapes, puis quels sont les tapes, y a-t-il eu des tapes, je me souviens d'avoir vu tel tape, etc., puis où c'est une fois, puis à quelle place qui est, etc. Moi, j'ai l'impression que j'aurais tendance à dire que le résultat net est plus positif, la structure vidéographe, que parce que regarde Toronto, regarde Vancouver.
Non, je veux dire, moi, je nie pas le... l'effet d'entraînement.
L'autre élément, là.
À Montréal, mais tu as dit à un moment donné que ça serait une bonne chose.
De le fermer.
Ouais. Je voudrais savoir pourquoi tu dis ça.
Ben, parce que. Il y a eu deux étapes au vidéographe. Il y a eu la période réalisation du projet vidéographe. Bon, qu'on a écrit, qu'on formulait, qu'on défendait, puis pour lequel on avait toute une argumentation. On a évoqué une partie aujourd'hui. Une fois qu'on l'a eu mis sur pied, puis on a prouvé là, ce qu'on s'était donné comme objectif. Le monde, les affaires à dire, ils sont capables de dire avec ce médium-là, puis à l'autre bout, il y a du monde qui sont intéressés à le voir. Puis qu'on est allé aussi loin de créer des choses comme les Selecto TV, qui ont été... Pour moi, ça a été euphorique, les Selecto TV. Parce que c'était l'aboutissement. Là. C'était la preuve qu'ils avaient fait, ils avaient fait comme faux, puis à l'autre bout, le monde était intéressé. Et en plus de ça, c'est que ça a généré une deuxième génération de formes de production. C'était le cas de SOSO, moi, puis d'autres affaires comme ça. Et quand on vivait ça, dans cette phase-là, là, pour moi, je me disais, effectivement, il faut le fermer à un moment donné. Il va falloir que ça meure, puis il va falloir que les gens, selon leurs racines, selon leur milieu, selon leur... vont décentraliser, même à Montréal, l'affaire. Okay. Puis là, parce que ma grande crainte, surtout là, dans la formule là, de la mise sur pied d'un réseau alternatif, l'objectif ultime, c'est qu'il soit totalement décentralisé, de telle sorte qu'on ne puisse pas mettre le calenot dessus, qu'on ne puisse pas l'étouffer. Or, le vidéographe, c'était tellement facile à étouffer. Tu sais, tu rentres, tu fermes la porte. Tu mets le calenot dessus avec la police, tout, puis tu fais un pseudo-procès ou un pseudo-problème. Ou bien tu l'infiltres, je ne sais pas. Il était clair que, on l'a dit souvent, idéalement, il devrait fermer. Sauf que, bon, à l'autre bout, ça ne se connectait pas comme on avait anticipé. Le réseau, il ne se mettait pas sur pied comme on pensait, qu'il était pas, avec la rapidité qu'il n'était pas à faire. Ce qui fait que de fermer un vidéographe, là, c'était pas essentiel pour protéger un réseau qui existait à peine. C'était le vidéographe qui distribuait ses tapes, c'était à peu près tout. Là. L'autre affaire, c'est qu'à un moment donné, on a commencé à élargir, tu sais, du culte vidéo, on est passé un petit peu plus large. Puis on a commencé à parler de TVC, puis regarder TVC, puis pourquoi les problèmes, puis tout ça. Puis on a dit, ben, il y a une chose, il y a une équation absurde qui se passe actuellement, là, qui met des menottes aux gens, puis au projet, c'est de dire, de faire une équation TVC et câble. Pour moi, c'était des menottes. Parce que sur le câble, le gars responsable, c'est le câble distributeur. Puis si lui, il décide de faire les cœurants, tu n'auras pas de TVC. En plus de ça, toutes les régions qui n'ont pas de câble, ils sont dans l'expectative d'un câble pour être capable de faire du local. J'ai dit, c'est absurde. au prix que coûte le câble, tu sais, à 7-8 000 piastres le mille de fil. C'est-à-dire, c'est de la folie que du monde dise, écoutez, puis ça, il y a tellement de monde qui venait au vidéographe, il disait, on aimerait bien ça se faire câbler dans notre bout parce qu'on pourrait faire la télévision locale. Moi, je vois ça épouvantable. Il faut faire un projet, à quelque part, faire la démonstration, puis casser l'équation. La télévision communautaire peut exister en dehors du cadre. Et de façon tellement souple et économique. Puis de faire une structure qui n'est plus un parasitage d'un capitaliste, mais une structure qui fait que tu es propriétaire. Tu as tes outils entre les mains. Puis de là, on a dit, là, il faut survivre, il faut absolument faire Saint-Jérôme. Il faut absolument survivre pour faire Saint-Jérôme. Parce que, bon, moi, à un moment donné, ça m'a dit, bon, la preuve est faite, tu checkes les trois hypothèses positives, trois hypothèses, les tapes sont là, etc. On écrit un rapport, bon, c'est réglé. On fait la démonstration, on le fait. Puis il y a une espèce d'élégance à dire, ça a été correct, c'est merveilleux, puis avant que ça se mette à dépérir, on le fait. C'est Lise Payette qui quitte son émission avant que ça commence à prendre une plonge. C'est Chose qui quitte, c'est Nadeau qui quitte 60 avant que ça se mette à dépérir. Il y a une élégance là-dedans. Joum, boum, disparu. Elle réapparaît un petit peu plus tard avec autre chose.
Bon. Ça n'a peut-être pas fait le nom de Montréal, mais les gens qui produisent en vidéo à Montréal, de s'organiser par eux-mêmes plus rapidement.
Quoi?
Mais
je trouvais que Québec. Le reste du Québec, c'est plus important que Montréal, puis dans ce sens-là, la TVC en circuit ouvert me paraissait important.
Non, je ne parlais pas de la TVC, je parlais de ouais. Voir vidéographe fermé et rester ouvert. Mais par rapport à TVC4, tu as dit dans Téléquin que Stanford qui est devenu une candidate. C'est-à-dire, dans une certaine mesure, tu disais aussi qu'on s'était fait fourrer par les ingénieurs du ministère des Communications dans le sens où ça avait tellement grossi. Bon. Comment tu vois ça maintenant, Saint-Jérôme? Où est-ce que ça en est rendu présentement?
Puis surtout, comment ça se fait que c'est les ingénieurs qui ont donné des critères du standard d'équipement qui aurait normalement que ça aurait
été. Demande à Jean-Guy puis à Robert O'Brien. C'était ça le leadership technique du vidéographe au moment où les affaires sont conclues. Alors les ingénieurs ont dit bon.
Ils n'ont pas accepté le leadership du vidéographe ou
quoi? Ben, il n'y en avait pas. Gilles Lapointe, il ne connaissait absolument rien au niveau de la vidéo, puis au niveau de...
Mais malgré ça, il était... Moi, en tout cas, je pense qu'il était bien difficile de faire autrement dans le contexte politique et puis dans le contexte économique dans lequel on était. Tu sais que tu avais un certain nombre de restrictions, tu avais un certain nombre de lois qui t'empêchaient de faire telle ou telle affaire. Que c'est devenu une Cadillac, ça.
Je veux dire, dans la formule non exportable aux autres, ça devient un prototype.
Je sais. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai essayé d'intervenir à certains moments. Il s'est passé un accident, là. C'est qu'il y a eu un moment, une réunion qui a été une réunion importante à laquelle je n'ai pas pu aller. Tu comprends? Sauf qu'après coup, elle s'est avérée le pivot capital en termes techniques. Mais au moment où elle a été convoquée, elle n'avait pas cette allure-là. On l'assure. Puis en plus de ça, c'est qu'il y a une différence. Quand tu es à l'extérieur, puis que tout à coup, il y a une conjoncture qui se développe. Tu sais, quand tu es à l'intérieur, tu sens une conjoncture se développer. Mais quand tu es à l'extérieur, puis tout à coup, on te dit, ben écoute, tu pourrais-tu être là à telle heure? Ben, je ne sais pas qu'il est en train de se développer une conjoncture, puis effectivement, il faut que tu interviennes, puis ça a telle dimension, puis si tu n'es pas là, ou bien si tu ne dis pas telle affaire, ça, les proportions vont être assez importantes. Ben, c'est sûr, je te dis.
Mais ça serait interprétable comment, le fait que...
Je peux te dire, par exemple, qu'il y a des moments où j'ai intervenu sur technologiquement sur Saint-Jérôme, et je peux te dire que ça a empêché que le Cadillac soit un Rolls-Royce. Parce que, un exemple, là...
Les décisions, eux autres, ça les flattait ou ça les revalorisait qu'il y a une télévision qui soit qui soit plus grosse, les outils soient plus... Mais c'était simplement au niveau des devis.
Les techniciens en communication, en télévision, demi-pouce, ils connaissent pas ça. OK? C'est un gadget.
Pas en trois quarts de pouce, au moins.
Ah ben, à ce moment-là, là, il n'y avait pas la même dimension de trois quarts de pouce. Mais, puis même le 3 quarts de pouce, c'est un gadget pour eux autres. Sauf que la pression économique force les administrateurs à La pression économique, c'est les administrateurs. Les administrateurs forcent les techniciens à trouver des alternatives plus économiques. Parce qu'ils disent, écoute, ou bien vous coupez les affaires, ou bien on slack du monde. Et là, les techniciens, ils disent, ben, on va baisser la qualité, on va accepter telle affaire, coûter moins cher. Bon, c'est comme ça que c'est souvent. C'est par pression économique que la technologie change au niveau des techniciens. Parce que les techniciens, ils vont passer, tu sais, du Ford au Cadillac, au Rolls-Royce, puis tout ce qu'ils veulent, c'est que les boutons chaînent, puis les lumières soient toutes là, etc., puis qu'ils soient propriétaires d'un territoire de plus en plus grand dans lequel il y a une technologie qui miroite, qui est automatique, qui leur font des clins d'œil, etc., sous forme de chiffres, de voyants, d'oscillateurs, etc. C'est ça, le monde de la technologie et des techniciens, des super techniciens. Puis ça aussi, ben, je le connais, je l'ai vécu. J'en ai vécu un bout. J'étais dans un laboratoire, je faisais de la recherche à l'Université de Montréal. Ils avaient mes gadgets autour de moi. Personnellement, je l'ai vécu. T'sais. Puis tout j'y pas, OK? C'est à moi. C'est moi qui ai pensé, c'est moi qui l'ai organisé de même, qui est fait de même. Je sais ce que c'est que les techniciens. OK? Et dans ce sens-là, les gars, ils regardent et ils disent, puis t'arrives là, bon, parce que tu l'as vécu, le monde de la technique. OK? Puis pas juste technicien, mais le monde scientifique. Puis parce que tu as eu, parce que tu connais un peu les communications, puis le film, puis le cinéma, pour en avoir fait sur la forme amateur, la forme professionnelle. Puis après ça, tu t'es immergé dans une situation sociale puis dans un programme qui s'appelle Société Nouvelle, groupe de recherche sociale puis Société Nouvelle. Puis entre autres, moi, ça m'a marqué de façon importante parce que, étant producteur, contrairement à tous les autres membres du groupe de recherche sociale, moi, j'ai tout vu les rocheuses de tous les films du groupe de recherche sociale. J'ai vu tous les mots qui sont dits, j'ai vu tous les visages, j'ai entendu tous les mots qui sont dits devant les caméras de ces productions-là, ce qui n'est pas le cas des autres cinéastes. Dans ce sens-là, c'est moi qui a reçu la plus grande immersion de tous les maudits problèmes sociaux, puis tous les gens, leurs difficultés de vivre, puis les écœurs entrées qui se passent. Bon. Formation technique, scientifique, immersion sociale importante, puis bon, conjonction des affaires. Il est sûr, quand je dis, bon, ben la technologie permet certaines choses, puis si on la fait descendre d'un cran, il y a du monde qui va devenir un peu plus autonome, puis un petit peu plus puissant, puis ils vont être capables de s'en servir comme levier, faire des pressions. Ça va-tu changer les choses? Bien, on peut espérer que ça a plus de chances de changer les choses si les gens... bon, il y en a même qui disent que la technologie ultime, c'est un pistolet, puis c'est avec ça que les affaires se font. Bon, il est sûr que si t'en as pas, l'évolution est différente. Bien, une caméra, c'est une forme de pistolet. Alors, pour moi, quand tu arrives à un moment donné, puis tu te dis, écoute, le porte-pack, un modulateur de fréquence, un amplificateur linéaire, puis une antenne, on a un émetteur. Quand tu réalises ça, puis tu dis, le porte-pack, 1500$, le modulateur canal 4, 1500$, l'amplificateur linéaire, 2000$, puis l'antenne, 150$, puis on est en business. Tu dis, ah si, ça n'a pas de bon sens, fantastique. Tu mets la switch, puis le monde sont là au bout. Théoriquement, ils peuvent t'écouter. Bon, c'était ça le projet Saint-Jérôme. Tu regardes les toutes premières affaires, je pense que le projet au complet coûtait 45 000$, incluant la technologie et les animateurs, pendant une période. Bon, c'était aussi très innocent. OK? Mais c'est possible, hein? Moi, je suis convaincu que cette forme d'innocence-là était possible. Tu oublies une CRTC pendant un certain temps. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est que les gars, les ingénieurs, ça, là,
ils croient pas.
Ils croient pas, puis ils sont en communication, puis ils appliquent leur schéma. Ils tombent sur leur automatisme. Alors,
quand ils font un circuit, c'est un circuit avec tant de composantes.
C'est ça. Alors, tu avais le studio, puis tu avais le clocher pour l'antenne. OK? Ben, normalement, tu mets l'émetteur le plus près de l'antenne possible, pour des raisons de rendement, d'efficacité, pour que ça te perde dans un fil, etc. Alors, tu mets l'émetteur là. Sauf que le studio est ici. Alors, les gars, on dit, c'est quoi la technique employée en...